Bonjour, moi je suis Madame Mama Kouate Doumbia. Je viens du Mali, je suis malienne et je suis la présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali et la présidente du consortium des femmes leaders pour la transition. Et je travaille beaucoup sur les questions de paix et de sécurité, mais surtout sur le leadership féminin aussi.
Et qu'est-ce qui vous a amené à New York?
Alors, je suis invitée ici pour la revue de la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui a été adoptée en 2000, qui parle de femmes, paix et sécurité, la participation de la femme, le rôle de la femme dans la prévention, le rôle de la femme dans la reconstruction et comment protéger les droits des femmes en période de conflit. Alors, j'étais venue discuter un peu de cela avec mes partenaires ici du département maintien de paix. Hier, j'ai fait un panel là-dessus sur la situation des femmes au Mali.
Alors, hier, vous aviez dit, vous avez fait un panel là-dessus. Qu'est-ce que vous avez dit aux panélistes?
Bon, la première des choses, j'ai décrit la situation dans laquelle les femmes vivent, en tout cas le Mali vit depuis 2012, et particulièrement les femmes et les enfants qui sont les plus grandes victimes, qui ont payé le plus lourd tribut de ce conflit qui a commencé en 2012 et qui perdure encore au Mali. Et ce conflit a commencé avec une rébellion, mais aujourd'hui nous sommes avec le terrorisme et l'extrémisme violent où les auteurs n'ont pas de visage, n'ont pas de revendication. Ils frappent partout et ils tuent dans la plus grande impunité. Ils violent les droits des femmes et des filles. Ils violent les droits des populations. Ils brûlent tout sur leur passage. Ils tuent partout et avec tous les moyens, les mines, les armes les plus sophistiquées. C'est compliqué. Alors, je suis venu dire, voilà le cri de cœur des femmes du Mali pour dire à la communauté internationale que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de cette crise qui perdure, de cette crise, de cette insécurité presque généralisée qui avait commencé par le nord du Mali, qui est aujourd'hui au centre et qui se trouve aujourd'hui presque un peu partout sur le territoire malien. Donc, je suis venu dire à la communauté internationale que ça suffit, qu'il faut nous accompagner pour qu'on sorte de cette insécurité, qu'on sorte de ces crimes, de ces violations graves des droits humains sur notre territoire. J'ai ensuite parlé des préoccupations des femmes ici actuellement dans le pays avec non seulement cette crise, mais aussi avec la situation sociopolitique du pays. J'ai discuté de cela, j'ai parlé de cela. D'abord, qu'est-ce que nous avons fait en tant que femmes? Et d'abord, nous sommes sortis du statut de victime à statut d'actrice. Et nous avons mené beaucoup d'actions sur le terrain, à tous les niveaux, jusqu'au niveau des cercles, des régions du Mali. Nous avons sillonné tout le pays pour parler du rôle et de la place de la femme dans la paix, mais aussi de voir comment elles peuvent contribuer à la vie politique et au développement socio-économique du pays. Donc, nous avons fait ce travail et c'est ça que j'étais venue exposer. J'ai aussi parlé aussi des défis que nous avons actuellement. D'abord, la priorité de ces défis, le plus grand défi, c'est l'insécurité qui frappe, dont l'ennemi n'a pas de visage, et nous voulons vraiment qu'on mette fin à cela. Ensuite, j'ai parlé des besoins sociaux, économiques et culturels que les femmes ont. Il y a beaucoup de femmes qui ont été réfugiées et déplacées dans le pays avec cette crise de 2012, qui ne sont pas encore de retour, et qui sont vraiment dans la plus grande vulnérabilité, la plus grande précarité. Et j'ai discuté aussi de la situation des enfants, et puis aussi j'ai discuté de comment on peut accompagner justement la mise en œuvre du plan d'action de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, qui consiste à augmenter le taux de participation des femmes dans les instances de prise de décision, surtout sur les questions de paix et de sécurité, mais aussi que les femmes puissent avoir bénéficié des dividendes de la paix. Parce que aujourd'hui, on pense que ce sont les hommes seuls qui doivent être autour de la table pour discuter de l'avenir du pays, alors que les femmes ont leur place parce qu'elles constituent plus de 50% de la population malienne.
Vous aviez des demandes particulières, très concrètes. Vous aviez formulé, ou est-ce que vous avez des demandes particulières et très concrètes pour les Nations Unies, par exemple?
J'ai parlé de la problématique du retour des réfugiés et des déplacés internes. J'ai parlé aussi de la problématique des victimes. Des victimes qui ont été violentes et qui aujourd'hui sont abandonnées, qui n'ont pas de soutien holistique par rapport à leur souffrance. J'ai aussi parlé de la participation des femmes aux élections. Et j'ai dit qu'il faut qu'on nous accompagne pour que les femmes soient dans les instances de prise de décision. Et puisque nous allons nous acheminer à des élections, nous avons besoin à ce que les réformes prennent en compte les questions du genre pour que les hommes et les femmes se retrouvent dans la gestion du pays et dans la gestion de la nation malienne. Et j'ai parlé aussi du besoin urgent de soutien pour la paix, la sécurité et la stabilité du Mali. Voilà le message que je suis venu transmettre.
Alors, quand on parle un peu de femmes, paix et sécurité, on a l'habitude de donner le Mali comme un exemple. Après le début du conflit en 2012, on se souvient que les femmes maliennes ont réussi à se faire inviter ou ont contraint les autres à se faire inviter aux accords d'Alger. Et qu'à la suite de ces accords, on a félicité les résultats comme quoi, grâce à la présence des femmes, on avait un accord inclusif. Mais voilà, on est en 2022, 7 ans plus tard, le problème ne semble pas être résolu. Qu'est-ce qui n'a pas marché après ces accords?
Voilà, la première des choses, c'est que nous n'avons pas commencé notre mandat, nos actions à partir de l'accord d'Alger. Nous avons commencé dès les premières heures de la crise en 2012. Les femmes se sont mobilisées pour dire non à ce qui se passe. Non d'abord à ce coup d'État qui n'avait pas de sens. Mmh. Ensuite, on a dit non aux violations graves de droits humains, aux viols qui s'exerçaient sur les femmes dans le nord du Mali. Et nous nous sommes levés, nous avons mené beaucoup d'actions de plaidoyer, beaucoup de cris de cœur, mais aussi nous nous sommes fait inviter autour de la table. Quand on a préparé les activités de Ouagadougou 1 pour faire la médiation par le président de Burkina Faso, on a invité un certain nombre de Maliens à aller se retrouver à Ouaga pour discuter de cela. Mais quand nous avons senti qu'il n'y avait pas une composante féminine, il y avait des femmes, mais il n'y a pas une composante spécifique féminine de femmes, nous sommes déplacés à Ouagadougou et nous sommes invités autour de la table. Nous avons pris des chaises, nous sommes assises et nous avons dit, nous sommes venus parler du Mali au même titre que les autres. Et je pense que ça a frappé l'opinion nationale et internationale. Fait que nous avons vraiment osé, il y a eu de l'audace ce jour-là, parce que nous avons bravé même les services de sécurité pour rentrer dans la salle. Et le président nous a donné la parole. Et dans ce travail qui a été fait ce jour-là, la déclaration de Ouagadougou 1, dans le préambule, c'est notre déclaration qui a été le préambule. Parce que c'est dans la salle que nous avons rédigé ce texte pour dire que voilà notre message pour la médiation. Et la médiation l'a utilisé pour en faire le préambule de la déclaration. Et après, on nous a invités, parce qu'on était devenus incontournables, on nous a invités par rapport aux actions et la vision que nous avions de ce pays. Ensuite, à Ouaga, il y a eu la même chose. Là aussi, on ne nous a pas invités, il y avait près de 200 hommes, il n'y avait pas de femmes. Et nous avons dénoncé cette situation, nous avons dit, mais c'est nous qui avons payé le plus lourd tribut de cette crise. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous mettre sur la table à discuter en dehors de laissant la moitié des Maliens dehors. Alors là aussi, on a fait de l'activisme. On a eu une formation, un soutien du ministère de la Réconciliation. Et nous avons formé des femmes. Et nous avons pu avoir 4 places dans les négociations à Alger au nom de la composante féminine. Et c'est ensuite qu'on a créé justement la plateforme des femmes leaders du Mali pour dire qu'au-delà de tout ce qui nous séparait du point de vue organisation, vision des femmes, mettons-nous ensemble et pesons de notre voix sur ce processus en cours. Et c'est là où on a eu la place justement dans le pays. Et on nous a écoutés et on a été invités à beaucoup de choses dans le pays. C'est vrai qu'après, franchement, il faut se dire que parce que nous avons organisé des marches, nous avons tapé à la porte des hommes pour le distorter, aller signer l'accord. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours cette résistance des hommes qui ne veulent pas que les femmes soient dans les instances de prise de décision. Autant eux, ils discutent de leurs intérêts propres, etc., autant nous, nous avons des intérêts spécifiques que nous voulons discuter. Et parce que la crise a fait de telle sorte que les femmes sont la majorité, 75% des réfugiés, c'est les femmes. Et aujourd'hui, il y a tout le tissu socio-économique et social qui a été détruit dans ces régions du nord et du centre. Comment faire pour que les femmes puissent retourner jouer leur rôle? Parce que notre société, c'est la femme qui maintient la société dans nos pays.
Je remarque qu'au départ, vous aviez fait preuve d'audace. Les femmes maliennes ont fait preuve d'audace à Ouaga et puis à Alger. Est-ce qu'il est possible de faire encore preuve d'audace aujourd'hui?
Non, aujourd'hui, on n'est pas dans l'audace, on est dans le plaidoyer et dans la négociation. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir les 12 places dans le comité de suivi de l'accord. Et on a pu avoir 14 places dans les autres mécanismes de suivi de l'accord. Donc, c'est important. C'est petit à petit qu'on est en train de se tailler une place auprès de ces mécanismes pour jouer notre rôle. Le problème qu'il y a encore, même étant à l'intérieur justement de ces processus, nous sentons toujours la résistance des hommes parce que l'ordre du jour est décidé sans qu'on ne mette vraiment la vision des femmes sur ces questions. La deuxième chose, c'est qu'il y a de la lenteur compte tenu des difficultés de négociation entre groupes armés et le gouvernement. Et nous, notre problème, ce n'est pas les questions politico-politiciennes. Nous voulons aujourd'hui que les femmes aient de l'eau à boire, que les femmes aient des centres de santé, que les femmes puissent aujourd'hui envoyer leurs enfants à l'école. Nous voulons que les femmes continuent à mener des activités génératrices de revenus dans la paix et dans la sécurité, à faire leurs activités artisanales, à faire leurs petits commerces, à faire vraiment leur maraîchage, à faire aujourd'hui les ventes de produits alimentaires pour faire vivre la société. Donc, ce travail faisant, nous ne sommes pas beaucoup intéressés vraiment par les tiraillements qui se passent. Nous voulons vraiment que des programmes se mettent en place. C'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale vraiment de nous accompagner pour que les femmes qui ont tout perdu pendant cette crise puissent s'autonomiser, retourner à l'autonomisation de la femme. C'est la question clé que nous voulons qu'on mette au centre justement de l'accord pour la paix. Et on est en train de se battre pour cela. Et c'est pourquoi je suis venue dire à la communauté de nous accompagner sur ce plan-là. C'est vrai, quand bien même il y a ces questions à régler politiquement, nous voulons vraiment qu'on se penche sur la situation sociale et socio-économique des populations civiles.
Mais peut-il y avoir développement social, socio-économique quand il n'y a pas la paix, la sécurité?
Non, ce n'est pas possible, c'est vrai, mais justement, ça va de pair. C'est pourquoi, en même temps, je levais la voix pour demander qu'on nous aide à avoir la paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, rien n'est possible.
Alors, ce sera ma dernière question. Imaginez que vous retourniez à Bamako demain et que vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui a su que vous étiez à New York pour parler des femmes, de la paix, de la sécurité. Et cette personne vous demande, vous revenez de New York, qu'est-ce que vous nous ramenez? Quelle est la réponse que vous donneriez à cette personne?
Je vais juste leur dire que je ne sais pas si ma voix a été entendue parce que j'ai parlé dans un grand public avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. Lacroix, qui était là avec d'autres participants. J'ai levé la voix devant tout un panel, vraiment tout un monde de diplomates vraiment qui accrédités ici auprès des Nations Unies qui vont entendre le cri de cœur des femmes du Mali. Et mon dernier mot était, nous voulons la paix, nous voulons la stabilité. Et je pense que la communauté internationale a le devoir et la responsabilité d'écouter le peuple malien, d'écouter la voix surtout des populations civiles et de surcroît la voix des femmes.
Je vous remercie beaucoup, madame.
Merci beaucoup.